Radio Prague, les informations.
Les écoliers de Bohême centrale seront vaccinés contre la jaunisse. Le premier ministre tchèque s'est entretenu avec son homologue espagnol sur l'Union européenne. Le nouveau plan cadastral permet de prolonger le métro pragois jusqu'à l'aéroport. Tous les écoliers des premières classes en Bohême centrale seront vaccinés contre l'hépatite A. C'est ce qu'a déclaré à l'issue d'une réunion de la commission de sécurité régionale le préfet de Bohême centrale, Peter Bendel. La mesure concerne quelque 5500 enfants. Les frais de vaccination seront payés par des fonds régionaux. Lors de sa visite en Espagne, le premier ministre tchèque Mirek Topolánek s'est entretenu avec son homologue espagnol José Luis Zapatero, surtout sur la présidence tchèque de l'Union européenne, mais aussi par exemple sur les rapports entre les pays de l'Union et Cuba. La Tchéquie assumera la présidence de l'Union dans la première moitié de l'année prochaine. Les membres du conseil municipal de Prague ont adopté des changements du plan cadastral qui permettront la réalisation de deux projets importants. La ligne A du métro pragois pourra être prolongée jusqu'à l'aéroport de Prague-Ruzyně. La ligne qui reliera le quartier pragois de Davice avec l'aéroport sera longue de 13 km. Le nouveau plan cadastral permettra aussi de supprimer une grande partie de la gare Masaryk au centre de Prague et une importante réduction des terrains occupés actuellement par plusieurs autres gares pragoises. Une manifestation a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi à Prague devant le bâtiment de l'ambassade indienne. Plusieurs dizaines de personnes ont revendiqué la libération de l'entomologiste tchèque Emil Kučera, qui est détenu en Inde pour avoir illégalement collecté avec Petr Švácha, un autre ressortissant tchèque, des insectes dans le parc de Singhalia. Tandis que Petr Švácha a été libéré, Emil Kučera a été condamné à 3 ans de prison. Ce jeudi, l'Institut Maharal a été ouvert solennellement à Prague, rue Kozy, et son but sera de faire connaître au public l'œuvre et la personnalité du rabbi Yehuda Löw ben Bezalel dans la littérature judaïque dénommée en abrégé Maharal. Les créateurs de l'Institut veulent également promouvoir l'œuvre des disciples de Maharal. C'est par la première de la pièce Otrazeni sur le départ que commencera ce vendredi à Londres une série de manifestations consacrées à Václav Havel, dramaturge et ancien président tchèque. La dernière pièce de Václav Havel sur le départ sera donnée par le théâtre Orange Tree qui présente les pièces de Václav Havel depuis les années 1970. Météo, ce jeudi, fête de tous les Christophe, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été nuageux à variable et les températures diurnes se sont situées entre 10 et 14 degrés. Vendredi, le temps en Tchéquie sera clair à variable avec quelques faibles pluies et les températures ne dépasseront pas 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous donc à l'écoute de ce nouveau tour d'horizon de l'actualité tchèque. Au sommaire, en ce milieu de semaine, politique, science et culture. En politique, tout d'abord, nous évoquerons les affaires qui secouent le principal parti de la coalition gouvernementale, des affaires qui pourraient remettre en question le prochain avenir de cette coalition. Science, ensuite, il sera question d'un nouveau système informatique tchèque permettant à ses utilisateurs handicapés de contrôler leurs ordinateurs uniquement avec un œil. Et puis la seconde partie sera consacrée à la culture et plus précisément à l'art brut et à l'art moderne. On ne vous en dit pas plus pour l'instant et en attendant d'en savoir un peu plus et de développer tous ces titres, l'ensemble de l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible de notre programme. On commence donc avec de la politique. À un mois de la tenue des élections régionales et sénatoriales partielles, l'actualité sur la scène politique tchèque reste mouvementée. La situation est principalement tourmentée au sein du Parti civique démocrate ODS. Suite à l'affaire dite Morava, député peu scrupuleux contraint de démissionner, deux autres membres ont décidé de quitter le groupe parlementaire de la principale formation de la coalition gouvernementale. Parallèlement, deux proches collaborateurs du Premier ministre, Mirek Topolánek, ont été convaincus de corruption. Mercredi aura donc été une journée noire pour l'ODS. Dans la matinée, c'est d'abord le député Jan Schlippel qui a annoncé qu'il se retirait du groupe parlementaire. Une décision motivée, assure-t-il, par la manière dont la direction du parti gère l'affaire Morava. Alors d'abord, rappel des faits. L'affaire Morava a mis en lumière, à travers un reportage télévisé et une caméra cachée, les pratiques mafieuses en cours dans les coulisses de la politique tchèque. Elle a impliqué Jan Morava, un jeune député de 29 ans, pris au piège alors qu'il achetait au journaliste, auteur du reportage, des photos présentées comme compromettantes mais préalablement mises en scène de Vlastimil Tlousti, collègue de l'ODS, à la Chambre des députés, en froid avec les têtes pensantes du gouvernement. Dans la foulée de la diffusion du reportage, Jan Morava avait démissionné. Mais sans doute victime de son inexpérience, il est resté le seul acteur du reportage à avoir payé les pots cassés au sein de l'ODS. Or, c'est précisément ce que reproche au responsable du parti Jan Schlippel, tout comme Juraj Raninets, autre député considéré comme rebelle, qui avait lui aussi quitté le club parlementaire deux jours plus tôt. Les deux hommes sont des proches de Vlastimil Tlousti. Cette fracture au sein du principal parti de droite du pays remet en cause le proche avenir de la coalition gouvernementale tripartite qui ne possède qu'une faible majorité à la Chambre basse. Ainsi, bien qu'il conserve son siège de député, Jan Schlippel a annoncé qu'il ne voterait pas, par exemple, en faveur de la ratification du traité de Lisbonne ou de certaines réformes. Pour autant, les partenaires de la coalition, chrétiens-démocrates et verts, restent prudents et estiment qu'il s'agit là avant tout d'une affaire interne au Parti civique démocrate, comme l'explique le président du groupe parlementaire des chrétiens-démocrates, Pavel Severa.
Chaque parti de la coalition a ses propres problèmes. Je suis convaincu que nos collègues de l'ODS vont nous informer de l'évolution de la situation à l'intérieur de leur parti pour que nous sachions dans quelle mesure la situation est stable et s'il convient de compter avec quelques voix manquantes. Pour l'instant, je dirais que c'est plutôt une question de position personnelle de différents membres de l'ODS et nullement un problème de la coalition du point de vue du programme.
Mais cet affrontement d'intérêts personnels n'est pas la seule chose qui mine l'ODS. Mercredi après-midi, en effet, la cour d'appel d'Olomouc a donné raison à l'ancien député Zdeněk Kořiska, qui accuse Marek Dalík et Jan Večerek, de proches collaborateurs du Premier ministre Mirek Topolánek, d'avoir cherché à le corrompre. Les deux hommes vont se pourvoir en cassation, mais quelle que soit la décision, avec toutes ces affaires, le principal parti de la coalition gouvernementale se trouve aujourd'hui dans de bien sales draps. On passe à la science. Depuis quelques jours, un nouveau système informatique tchèque est commercialisé. Un système qui permet à l'utilisateur de contrôler son ordinateur en utilisant uniquement son œil, donc qui peut être d'une grande utilité pour les personnes handicapées. Alexis Rosenzweig pour plus de précisions.
Eye for Control, l'œil pour le contrôle en anglais, a été développé par le département de cybernétique de l'université technique de Prague, la CVUT, en collaboration avec l'institut Jedlička, spécialisé dans le soutien aux jeunes handicapés moteurs. Alors l'Eye for Control, comment ça marche? Réponse de Marcela Fejtová, c'est la principale responsable du projet.
Le principe est très simple. La petite caméra est fixée sur une monture de lunettes et permet à l'utilisateur de contrôler le curseur avec son œil. Quand il bouge son œil vers la droite, le curseur va à droite. Quand il bouge vers la gauche, le curseur part vers la gauche. Un clin d'œil d'une seconde permet de cliquer. Un clin d'œil de deux secondes est interprété comme un double clic.
Et cet engin est de petite taille. Pour l'installer sur son ordinateur, deux conditions: disposer du logiciel Windows et de deux ports USB pour le brancher. Ce n'est pas le seul système de ce type dans le monde, mais l'Eye for Control a l'avantage de coûter relativement peu cher, moins de 1 600 €, une somme qui reste quand même conséquente. Tomasz Suchitski travaille avec des enfants handicapés de l'Institut Jedlička et selon lui, il serait bon que les caisses d'assurance prennent une partie du coût à leur charge. On l'écoute.
C'est
une chose qui aide réellement les handicapés physiques qui peuvent être totalement indépendants pour travailler sur ordinateur et surfer sur Internet. Il faut les aider à financer cette installation. J'espère que quand on va voir que les gens l'utilisent, la pression sur les assurances va se faire ressentir pour qu'elles donnent quelques couronnes.
Plusieurs institutions de pays nordiques ont déjà manifesté de l'intérêt pour l'invention tchèque et les chercheurs de l'université technique ne veulent pas s'en tenir là. Avec le même principe, ils veulent développer des systèmes qui permettront de contrôler d'un œil d'autres appareils comme la télévision et la radio par exemple.
Place maintenant à la culture. Du 18 au 25 octobre, la galerie genevoise Une sardine collée au mur, spécialisée dans l'art brut, présente les œuvres d'Anna Zemankova. Rappelons rapidement que l'art brut, ce sont des créations spontanées d'artistes autodidactes. Disparue en 1986, Anna Zemankova était une femme au foyer qui, au moment de sa ménopause, est tombée dans une grave dépression. C'est en autodidacte qu'elle se met alors à créer des peintures, une production ininterrompue des années 1950 à sa mort. Flora Bern, la galeriste qui l'expose, a expliqué à Anna Kubishta comment elle avait découvert son œuvre.
Alors en fait, Anna Zemankova, déjà, c'est un grand classique déjà de l'art brut. Ça fait partie des références, je dirais, en tant qu'artiste de ce domaine. Elle est répertoriée dans énormément de littérature d'art brut spécialisée. Moi, j'ai eu la chance de découvrir les œuvres de Visu déjà à la collection ABCD à Paris il y a 3-4 ans de ça, un peu plus. J'ai rencontré à plusieurs reprises Thérésie Zemankova, donc la petite fille, ici à Genève lors de ses voyages, et on a eu un bon contact et ainsi on a commencé à parler des œuvres et j'ai pu découvrir tout l'univers en fait Zemankova vraiment de fond en comble grâce à Thérésie en fait.
Quel est l'univers un petit peu de Anna Zemankova pour les gens et notamment les auditeurs qui ne voient pas les œuvres? Est-ce que vous pourriez un petit peu les décrire et me dire ce qui vous a plu?
En fait, ce qui est très étonnant déjà chez Anna, donc ça a été quand même sa grande productivité pendant les 30 et quelques années où elle a dessiné. Elle s'est beaucoup attachée, elle s'est beaucoup inspirée des dessins, des motifs folkloriques tchèques qui servaient notamment à la couture des dames à l'époque dans les années 60-70. Elle s'est attachée à dépeindre une végétation luxuriante, flamboyante, avec des accès très très mystérieux, puisqu'évidemment c'est une flore, une végétation qui n'existe pas, qu'elle a vraiment stylisée d'après son imaginaire, et c'est quelque chose de très prenant, je dirais, parce que les images sont à la fois délicates et très fortes, très puissantes. Ces images sont toujours composées par de subtils mélanges entre des parties très très fines, très détaillées, très délicates, qui sont travaillés vraiment avec beaucoup de minutie et des éléments de composition très forts. Donc il y a un peu comme ça une ambiguïté, je dirais presque masculin-féminin dans son dessin, avec une utilisation des couleurs qui est quand même absolument magnifique, parce que pour quelqu'un qui était comme elle autodidacte, elle a un vrai talent de coloriste, et une composition dans la page, sur la feuille de dessin, très souvent en déséquilibre, qui occupe tout l'espace en fait du dessin.
L'exposition que vous organisez à l'heure actuelle dans votre galerie, c'est la toute première personnelle de Anna Zemankova?
Alors ici en Suisse, elle a déjà été évidemment exposée dans le musée de l'art brut à Lausanne, mais ici en Suisse, c'est la première exposition personnelle dans une galerie suisse en tout cas. Donc oui, effectivement, pour moi c'est un grand honneur de pouvoir montrer cet artiste ici à Genève.
C'était donc Flora Bern, galeriste de l'espace Une sardine collée au mur à Genève. Retrouvez Flora Bern ainsi que la petite fille d'Anna Zemankova, Thérésie, qui gère son patrimoine artistique dans l'émission culturelle du 28 septembre pour découvrir un peu mieux cette artiste étonnante et également préciser un peu plus le concept d'art brut. Et puis de l'art brut, on passe à l'art moderne. Ces amateurs se donnent rendez-vous ces jours-ci à l'aéroport de Prague. C'est dans le hall d'embarquement qu'ils peuvent voir depuis lundi une exposition intitulée Aéronale 2008 qui réunit des œuvres de 26 artistes, œuvres dont une partie a été directement inspirée du milieu où elles sont exposées. Václav Richter.
Chaque jour, des dizaines de milliers de passagers passent par le terminal 2 de l'aéroport de Prague. Et c'est à ce public international que s'adressent les organisateurs de ce projet. Le commissaire de l'exposition, Jiří Machalický, présente les artistes qui participent.
Il s'agit d'artistes de plusieurs générations. L'âge de la majorité des plasticiens se situe entre la trentaine et la quarantaine, mais il y a également de jeunes auteurs qui viennent de sortir des écoles d'art. L'exposition est dominée par plusieurs œuvres importantes, dont le groupe Les Humanoïdes de Michal Trpak, installé devant le bâtiment de l'aéroport, ou bien l'œuvre Graffiti de Jan Kalab, conçue pour le hall d'embarquement, ou encore L'Objet, une œuvre de Jan Stolin, créée aussi spécialement pour cette exposition dans le bâtiment du Terminal 2.
Le public peut voir à l'aéroport de grands tableaux abstraits, des sculptures, des installations, des photos et projections vidéo grand format, mais aussi des objets réagissant à la présence du spectateur. Jiří Machalický souligne la spécificité de ce projet.
L'aéroport n'est pas un espace traditionnel pour une exposition d'art plastique, mais il donne une occasion unique de choisir des œuvres qui sont en harmonie ou au contraire en contraste avec ce milieu. Il s'agit d'œuvres qui sont de caractère techniciste ou se situent tout à fait aux antipodes de ce caractère. En choisissant les œuvres pour cette exposition, j'ai cherché à créer un ensemble qui soit équilibré justement par ces contrastes.
Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Prague s'ouvre à l'art moderne. Déjà à l'époque de sa construction, dans les années 1960, il avait été orné d'œuvres du peintre Mikuláš Medek et du sculpteur Jan Koblasa, faisant partie de l'avant-garde des arts plastiques tchèques de cette période. Aujourd'hui figure parmi les œuvres exposées celle de Jan Stolin, artiste qui présente une œuvre spécialement créée pour cette exposition.
Le genre artistique que vous voyez ici et que je fais pourrait être défini comme site-specific art, l'art créé pour un endroit ou un site choisi. C'est un art qui travaille activement avec un espace et qui doit réagir d'une certaine façon à cet espace. C'est un défi et l'artiste qui le relève doit être attiré par ce genre de création. Son œuvre doit être active vis-à-vis de l'espace environnant, elle devrait y intervenir d'une certaine manière.
Si vous visitez Prague et si vous y venez en avion, profitez de l'occasion pour voir cette exposition d'art qui cherche à nouer un dialogue avec l'espace d'un aéroport. Elle sera ouverte jusqu'à la fin de l'année.
Voilà, c'est donc sur cette invitation à visiter l'exposition à l'aéroport de Prague que se referment ces faits-événements. Merci de votre attention et de bien vouloir rester en notre compagnie pour la suite de notre programme.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Historien et directeur de l'école primaire élémentaire de la ville de Biela pod Bezdězem, Ferdinand Čimáček est l'auteur d'un ouvrage remarquable qui récapitule l'histoire de cette commune. Jusqu'à présent, aucun autre historien n'a rédigé d'écrits plus détaillés. Son ouvrage est l'unique source pour tous les documents publiés actuellement sur l'histoire de la ville. Pendant de longues années, Ferdinand Čimáček était membre du conseil municipal et travaillait dans les institutions et les associations importantes de la ville. Depuis la fondation du conseil régional des musées en 1927, il en fut membre et publiait également des articles dans différents magazines régionaux tels que Odještěrák Troskám, Boleslavan, Bezděz. L'ouvrage « Les mémoires de la ville de Biela pod Bezdězem » qu'il a rédigé sur demande du conseil municipal a été publié après son décès.
Thank you.
Ferdinand Čimáček est né le 28 mai 1858 à Biela pod Bezdezem, ville située dans la région de Mladá Boleslav, en Bohême centrale, dans la famille d'un tisseron. Il fréquente l'école conventuelle de Biela et l'école primaire supérieure à Mladá Boleslav. Puis il porte son choix sur l'école normale d'instituteurs à Jičín, en Bohême de l'Est. Il a probablement choisi cette option car son grand-père était également enseignant. Ses études terminées, il revient dans sa ville natale où il occupe pendant une année le poste d'enseignant subalterne. Il est nommé gérant de l'école de Vratin. Pendant 16 ans, Ferdinand Čimáček a énormément contribué à son développement. C'est au cours de cette période qu'il commence à se consacrer à l'histoire et à l'ethnographie. En compagnie de son épouse, il a collecté dans la campagne des environs de Biela un précieux matériel destiné à l'exposition ethnographique de la région qui a eu lieu en 1894. Un grand nombre d'objets exposés ont été choisis par le professeur Lubor Niederle, archéologue de grande renommée, pour l'exposition ethnographique tchécoslovaque organisée un an plus tard à Prague. L'exposition reflétait la vie quotidienne et culturelle du peuple tchèque. Elle initia entre autres la fondation des musées ruraux. C'est pendant cette période que Ferdinand Čimáček est convoqué à l'école primaire élémentaire de Biela pod Bezdezem, dont plus tard il devient le directeur, fonction qu'il assumera jusqu'à sa retraite en 1920. C'était un homme très actif sur tous les plans, mais son intérêt majeur était porté sur l'histoire. Il étudiait minutieusement les archives de la ville, de l'église, du musée national et du ministère de l'Intérieur. Il fut l'un des principaux initiateurs de la fondation du musée de la région de Biela et était membre du conseil du musée constitué en 1907 et 20 ans plus tard, il en fut nommé le conservateur. Lors de la réunion du conseil du musée fin octobre 1935, il pose sa démission pour des raisons de santé. Effectivement, il se sentait fatigué, comme si déjà il pressentait la mort l'effleurer. Le jour suivant, il est atteint d'apoplexie et meurt quelques jours après, le 2 novembre 1935. En 2008, les établissements municipaux culturels Biela pod Bezdezem ont publié un petit livre sur Ferdinand Čimáček, rédigé par Madame Eva Hruba, journaliste et assistante du directeur du centre culturel de Biela pod Bezdezem. On l'écoute.
Je dirais qu'il est certainement bien de mentionner la personnalité de Ferdinand Čimáček, car c'est un homme très modeste qui aimait l'histoire. Depuis l'époque de ses études à l'école conventuelle du cloître des Augustins, le livre publié sur l'historien a l'avantage de parler de sa vie, alors que jusqu'à présent, on ne parlait que de son travail et de la façon dont il rédigeait les documents servant à l'étude de l'histoire. Il fut pour moi un grand honneur de pouvoir consulter les chroniques du cloître des Augustins où Ferdinand Čimáček a enseigné. J'ai également lu la liste des sponsors de l'époque de l'école qui fait partie du cloître. C'était des personnalités remarquables dont on garde le souvenir dans notre ville jusqu'à présent.
Madame Hruba est également rédactrice en chef du mensuel Spravodaj města Biela pod Bezdezem, ce qui veut dire bulletin d'information de la ville de Biela pod Bezdezem. Et j'ai également invité à l'antenne le directeur du centre culturel de Biela pod Bezdezem, monsieur Petr Matoušek, pour nous parler du livre sur Ferdinand Čimáček.
Nous avons publié ce petit livre à l'occasion du 150e anniversaire que Ferdinand Čimáček aurait fêté cette année même. Il est la seule personne de Biela pod Bezdezem qui a rédigé un livre détaillé sur l'histoire de la ville depuis sa fondation jusqu'à 1935, l'année du décès de l'auteur. Il n'a donc pas vécu la sortie de son livre. Jusqu'à présent, son ouvrage n'est pas dépassé, ce qui d'une part est dommage, mais d'autre part admirable.
Nous avons fait passer à l'antenne donc le directeur du centre culturel de Biela pod Bezdezem, Petr Matoušek, et son assistante, la journaliste Eva Hruba.
Thank you.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous prochain avec Radio Prague près de vos postes. Dès demain, même heure, même fréquence. Ou alors n'oubliez pas que vous pouvez également consulter le site internet de Radio Prague au www.radio.cz. À bientôt donc. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you